maison des écrivains. Une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, deux écrivains et deux professions de foi, deux aveux, deux preuves d'amour même adressées à la littérature. L'une dans l'élan pur, l'autre dans le questionnement sur le roman. Voilà qui nous promet une belle rencontre sur le présent, mais aussi l'avenir de la littérature. Cette littérature qu'on dit parfois aussi menacée que les grands fauves de la savane ou les plantigrades du pôle Nord. Aussi risible que ce soit, il y a 25 ans que j'écris, que j'essaie d'écrire des livres, dit l'une, qui n'en a pourtant que 30, c'est Julia Kerninon. Un seul et unique primo-romancier sera plus à même d'entretenir la foi en la littérature que toute la cohorte des pleurnichards réactionnaires. Le roman, loin d'être un genre mort, demeure un genre des plus inclusifs et des plus féconds pour engager la littérature dans des voies créatives nouvelles, dit l'autre. Elle s'appelle Sophie Divry et elles sont toutes deux les invitées du Temps des écrivains. Bonjour Julia Kerninon.
Bonjour.
Vous écrivez depuis 25 ans. Écrivez-vous dans ce nouveau livre. Or, vous n'en avez que 30. Vous êtes l'auteur d'un premier livre dont on comprend maintenant que ce n'était pas le premier, dont le titre était Buvard et qui avait remporté un certain nombre de prix, dont le prix Edmé de la Rochefoucauld qui est réservé au premier roman. Et le prix Sagan. Vous avez publié ensuite Le dernier amour d'Attila Kiss, pour lequel vous étiez venu dans cette émission. Et vous publiez aujourd'hui, donc toujours aux éditions du Rouergue, un court texte intitulé Une activité respectable. Alors c'est court, mais c'est vibrant, car qu'est-ce que c'est que cette activité respectable? C'est la littérature, l'expression arrive à la toute fin de ce livre. Dans la famille, personne n'avait jamais gagné assez d'argent pour y croire, alors il ne croyait pas à l'argent, il croyait à l'expatriation, à la poésie, à la sobriété matérielle, il croyait que la littérature était une activité respectable. Alors ce livre est une forme d'essai autobiographique, enfin, vous allez me le dire. Vous allez me dire surtout si vous êtes d'accord avec ça, où vous placez votre encore jeune vie sous le signe de la littérature, qu'elle soit lue ou qu'elle soit écrite, puisque tous les éléments biographiques dont vous parsemez votre texte ne servent qu'à marquer un engagement en faveur du livre, que ce soit dans l'enfance que vous avez reçue, marquée par le culte du livre hérité de votre mère, les petits boulots que vous avez faits pour pouvoir avoir ce que vous appelez la liberté d'écrire, et cette expérience de la solitude absolue dans laquelle vous êtes enfermé dans un grand appartement de Budapest pour écrire, enfin. En quoi était-ce nécessaire maintenant, alors que vous êtes encore, on le dit, très jeune, cet hommage à la littérature? Est-ce que c'était pour vous restimuler?
Oh non. Et je ne sais pas si c'était nécessaire. Les choses sont plus intéressantes quand elles ne sont pas nécessaires et qu'on les fait pour des raisons luxueuses. Non, je crois que c'était juste que d'avoir été primo-romancière, j'ai été invitée dans des librairies et comme je venais de nulle part, il fallait bien expliquer qui j'étais. Et donc petit à petit, un peu malgré moi, j'ai été obligée de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées et d'élaborer un peu... En tout cas, une des versions de pourquoi je me suis retrouvée à écrire des bouquins.
Parce qu'on vous interrogeait, quoi. Pourquoi,
bah oui, pourquoi est-ce que
écrivez-vous,
vous faites ça,
la fameuse
pourquoi
question.
Ce livre-là. Et en répondant à ça, moi, en tout cas, je me retrouvais à prendre la pleine mesure de à quel point même mes parents avaient eu de l'importance là-dedans. Et puis, il y avait le fait de fêter mes 30 ans et je viens de finir ma thèse de littérature. Enfin, c'était la fin d'une longue et très fatigante
thèse
décennie.
Thèse sur quoi? Quel est le sujet?
Thèse sur la Paris Review et sur les écrivains au travail, enfin, toutes ces questions-là, l'interview. Donc voilà, c'était l'idée de, un peu pour mes 30 ans, je me fais ce cadeau de faire les comptes.
Faire les comptes. Bonjour Sophie Divry.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La Côte 400, de La Condition pavillonnaire, de Quand le diable sortit de la salle de bain, et vous publiez chez Notabilia, votre éditeur, un essai passionnant, tranchant, écrit avec une certaine volonté d'aller au bout des choses, comme le fait d'ailleurs Julia Kerninon. Le titre, c'est « Rouvrir le roman », c'est un essai consacré à la littérature, au roman, dans lequel vous essayez et vous réussissez, je trouve, à battre en brèche un certain nombre d'idées reçues qui étouffent la littérature, comme « Le style, c'est l'homme » de Buffon, ou « L'antienne contemporaine »,« Le roman, c'est mort », »,« Le passé simple, c'est has-been », »,« Comment assumer sans culpabilité sa place d'artiste », c'est aussi une des questions que vous posez, « Combattre un certain cliché qui voudrait que la littérature soit idéale, soit pure », ça sera intéressant de vous écouter, dialoguer toutes les deux. Et vous militez aussi, Sophie Divry, pour ce que vous appelez un roman à haute dose. Alors cet essai vous permet de développer des réflexions extrêmement concrètes sur la petite fabrique du roman aussi, sur le dialogue, sur l'idée de comique aussi en littérature, sur la mise en page. Tout cela côtoyant les réflexions apportées par de grands écrivains sur leur art, Faulkner, Flaubert, Bergugno et Sartre. Bergugno, vous lui tapez un peu dessus. Un mot sur le titre « Rouvrir le roman », comme s'il fallait indiquer que tout se jouait d'abord contre une certaine fermeture, comme s'il fallait redire que le débat n'était pas clos, que les livres n'étaient pas fermés.
Oui, la démarche principale de l'essai, c'est d'essayer de repousser les limites de la création. Bon, c'est à partir de mon expérience personnelle, je fais vraiment entrer le lecteur dans la cuisine personnelle de l'écrivain. J'ai voulu surtout à la fois combattre un certain nombre d'idées reçues, en tout cas vraiment mettre à plat un certain nombre d'injonctions souvent inconscientes quand on est un écrivain, un jeune écrivain. Je voulais discuter, vraiment mettre à plat, voir si ça marche, et ça tient jusqu'au bout quand on les passe au fer vraiment de l'argumentation. Et ensuite, rouvrir des chantiers possibles dans les techniques littéraires. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en tant qu'écrivain, on soit limité par soi-même, en fait. Donc le but, c'était vraiment...
Par soi-même ou par les autres? Parce que quand vous parlez d'injonctions, c'est plutôt, enfin à vous lire, des injonctions, disons, a priori, lancées par... un contexte éditorial.
Oui, mais les injonctions se promènent pas comme des inquisiteurs extérieurs à nous. On a baigné dedans, des fois, depuis l'éducation scolaire, qui est baignée de certains nombres de postulats, et par les lectures qu'on a et qu'on a intégrées, par les influences qu'on a. Donc, c'est à l'intérieur de nous. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans ma démarche d'écrivain, à un moment donné, j'ai eu besoin de questionner tout cela pour essayer de rouvrir, de casser, de mettre à plat et de pouvoir ouvrir vers de nouvelles contrées. D'où le mot « rouvrir le roman », parce qu'en effet, je pense que le roman peut beaucoup plus que ce qu'on lui demande actuellement, afin de soi-même déjà se sentir le plus libre possible. Mais libre, c'est pas non plus quelque chose de flottant et d'éthéré. C'est pas facile la liberté non plus d'écrire.
C'est pas facile la liberté, c'est d'accord, Julia Cardinon, avec cette phrase. Les injonctions dont parlait Sophie Divry, qui s'imposent. C'est vrai que le style, c'est l'homme, c'est souvent le sujet de dissertation qu'on a, voilà.
J'ai trouvé ça très intéressant, le livre de Sophie, et moi j'entends le titre comme « Rouvrir le dossier du roman », effectivement, ça. Questionner, théoriser là-dessus, c'est essentiel, et je pense que ça mène à des livres plus profonds. Moi je suis souvent étonnée de penser qu'un romancier comme William Faulkner ne semble pas avoir d'héritier aujourd'hui, alors qu'on voit bien qu'il y a un style Faulkner, il y a une technique, et on a récupéré la technique de plein de gens, on a récupéré le stream of consciousness, des trucs, toutes sortes de... Et Faulkner, non, Faulkner, il n'y a pas d'école, et je trouve ça dommage.
Mais il ne tient qu'à vous, Julia Cardinon, de reprendre l'héritage. Quand Sophie Divry dit le roman peut plus que ce qu'on lui demande, on lui demande quoi, pensez-vous aujourd'hui, Sophie Divry? On ne lui demande que quoi, d'ailleurs?
Mais ce que j'essaie d'expliquer au début de mon essai, c'est que, à mon avis, c'est intéressant de faire la théorie. Alors, si on a peur du mot théorie, on peut dire réflexion, réflexivité. Mais en fait, au final, c'est pareil. C'est faire de la théorie, s'arrêter à un moment donné, d'être dans l'intuitif. Il faut essayer de se poser la question de qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je viens de faire? Ou pourquoi ça bloque à ce moment-là? Donc, ça a souvent été... Enfin, justement, c'est une des idées reçues qu'on peut avoir. C'est qu'il ne faut pas théoriser, que c'est froid, c'est sale... Et même moi, commençant cet essai, j'ai eu peur de me transformer illico en espèce de vieille sorcière desséchée qui allait faire tremper la magie du roman dans un bain de soude.
Alors c'est loin,
soude,
vous n'êtes pas du tout, alors je vous rassure, voilà. Pas
donc,
du tout
coup,
une vieille sorcière
de...
desséchée. Et le livre
voilà, donc je me suis
n'est pas un vieux grimoire.
parce qu'à mon avis, si on ne réfléchit pas à comment on fait les romans, eh bien on va les faire comme d'habitude en fait. Si on n'a pas de théorie ou de réflexion consciente sur qu'est-ce qui se passe quand on écrit, eh bien on laisse s'installer une théorie inconsciente qui demande au roman, du romanesque principalement, c'est-à-dire un récit linéaire, narratif, chronologique, ou avec quelques flashbacks, et des personnages qui sont bien définis, qui ont chacun, des fois jusqu'aux vêtements, etc. Et des grands sentiments aussi, souvent. Et puis on fait toujours un peu la même recette, alors qui peut être variable, évidemment. Et qui a principalement le but de s'évader, de faire haleter, de divertir. Mais en tant que tel, c'est pas un problème d'être diverti. Mais vous voyez, il y a une différence entre être diverti et être réjoui. Bon, en même temps, moi, j'ai rien à dire là contre. En tant que lectrice, je veux dire, ça m'arrive d'en lire, c'est pas un problème. Mais en tant que tel, moi, j'étais un peu coincée parce que moi, alors, ça m'intéresse pas du tout d'écrire des choses comme ça et j'en suis même incapable. C'est-à-dire, quand j'écris, moi, des romans, parce que je me suis rendu compte que j'écrivais des romans.
En tout cas, ce qui a marqué sur les livres, c'est vrai que La Côte 400 voilà. est présentée comme un roman.
Ouais. Ouais. J'écris jamais à partir d'un personnage ou d'une intrigue. Donc ça m'a posé des questions. Comment ça se fait que moi, j'arrive jamais à créer des personnages ou à des intrigues? Alors ça arrive après coup, mais c'est pas ça qui m'intéresse.
Mmh. Puis après, il y a intrigue et intrigue. Ouais. Julia Carninon parlait de Faulkner. Il y a une intrigue chez Faulkner, mais c'est voilà. pas uniquement ça qui nous intéresse, loin de là. Merci en tout cas à toutes les deux de participer à ce temps des écrivains donc d'une heure. Hein. C'est précieux d'ailleurs ce temps. Et vous allez pouvoir dialoguer, converser autour de cet art pas encore disparu qu'est la littérature. Qui nous rassemble tous, auteurs, lecteurs, autour de ces micros. Ce qui me frappe dans chacun de vos textes, c'est l'urgence avec laquelle il semble écrit. Une urgence qui semble dictée par la sensation d'un danger, ou du moins d'une grande gravité, d'un vrai enjeu. Julia Carninon, par exemple, on le sent dans l'allure. Alors évidemment, je ne dis pas que vous l'avez écrit vite, mais en tout cas, c'est extrêmement dense et vertigineux et rapide. Comme si devant la difficulté de ce chemin que vous êtes choisi, le chemin... d'être un écrivain, il fallait vous replonger dans la genèse de cet itinéraire, dans des souvenirs féconds et des souvenirs aussi qui vous obligent, hein, comme on se sent obligé face à quelque chose ou face à quelqu'un qui vous a transmis quelque chose, pour trouver la force, l'élan encore de continuer. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Vous dites, les lecteurs en librairie me demandaient d'où je viens, mais personnellement, est-ce qu'il n'y avait pas quand même une nécessité à le faire, une nécessité propre, quoi?
Évidemment.
Un luxe propre.
Non, mais évidemment qu'à différents moments, je crois, en tout cas c'est mon expérience dans une vie d'écrivain, on se demande pourquoi on fait ça. D'un côté, un livre, en tant que lectrice, les livres c'est des choses extraordinaires et merveilleuses et ce sont des mondes.
Donc mais nécessaire.
Donc peut-être. Nécessaire. Mais en même temps, ça reste aussi juste des tas de papiers et des fois je vois ça de façon trop pragmatique et je suis un peu désespérée, je me demande pourquoi je fais ça. Mais en même temps, c'est une machine trop intéressante. Et il y a cette phrase de Virginia Woolf que Sophie cite, le roman, c'est la matière la plus élastique. Et c'est aussi, pour moi, l'art le plus difficile. Je trouve qu'écrire de la poésie, c'est moins compliqué. Écrire là quelque chose d'autobiographique, c'est beaucoup moins difficile qu'écrire un roman, parce que le roman se définit quasiment parce qu'il n'a pas de frontières. Et donc, on peut tout faire dans un roman. Ulysse, c'est un roman. Les Rougon-Macquart, c'est des romans.
Faulkner, c'est du roman.
Du roman. Alors que
Joyce,
si on le regarde de près, justement en termes techniques, c'est incroyablement compliqué et différent, toutes ces choses-là. Donc quand on commence à faire un roman, peu importe qu'on commence par les personnages, par l'intrigue, par un détail, par l'envie de donner une texture dans le livre, on est obligé d'à la fois se fouetter soi-même pour faire n'importe quoi et de se poser des limites tout le temps. C'est très bizarre.
Sophie Divry.
Oui, je comprends. Quand vous dites c'est la forme la plus élastique, la plus prodigieuse, en même temps, moi je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire de la poésie, voyez-vous, parce que ce que je reproche justement au roman, c'est comme vous disiez, on peut le mettre sur tous les livres.
Oui, on peut même le mettre sur une activité respectable. D'ailleurs, j'ai pas à vérifier, non, il y est pas. Mais c'est vrai que souvent, même des autofictions sont labellisées romans. Oui.
Et du coup, il y a ce que je voulais plaider moi. Ce que je voulais dire, c'était que le roman pouvait aller beaucoup plus loin dans la recherche formelle. Et qu'on ne pouvait pas juste se contenter de répéter des formes du roman. D'ailleurs, ce que j'appelle le roman de la répétition, c'est une formule qui marche, c'est vrai, parce que aussi ça répond à notre besoin de récit. Et d'arriver toujours, au final, comme c'est une forme très souple, à mettre tout dedans, sans trop s'inquiéter de si ça... de comment c'est fait, tout en disant, ça fera du roman. Alors, justement, dans la poésie, c'est beaucoup plus contraint. Alors, évidemment, il y a des formes éclatées de poésie où la difficulté a été érasée. Mais la poésie, justement, il y a une espèce de contrainte de la forme qui fait qu'on est beaucoup plus appelé à une condensation, en tout cas très forte. Je pense que ce qui définit la poésie, c'est une très grande condensation. Alors que moi, ce que je reproche au roman, c'est souvent une espèce de dilution, on se paye trop de mots, quoi. Moi, je voudrais que chaque roman soit d'une densité, soit d'une efficacité, dans le sens d'une efficacité esthétique ou morale, mais quelque chose de fort, voilà. Et pas juste de reprendre la formule du roman.
Mais vous pensez qu'il y a une formule qu'on appliquerait? Vous le disiez très bien, Julia Carninon. C'est un genre cannibale. On peut avoir des lambeaux de poésie, on peut avoir, quand vous parliez d'Ulysse de Joyce, on est dans une recherche formelle, c'est-à-dire que...
Oui, il faut être quand même assez... Ouais. Excusez-moi, il y a une formule, parce que quand on s'éloigne trop de la formule, on nous le rappelle quand même.
Ouais. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, on peut être très inventif sur certaines choses. Regardez la particularité des livres de Mélisse de Kerangal, qui vient d'imposer en France un truc qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, stylistiquement, cette richesse-là. Mais en même temps, il faut que ça fasse une certaine taille. Un roman, c'est quand même pas vraiment un truc de 100 pages. Autour de 200, ça va mieux à tout le monde. Et puis, effectivement, il faut qu'il y ait quand même des personnages. Et il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Ça peut pas être trop mystérieux. Évidemment qu'on peut aussi considérer comme roman autre chose, mais l'acceptation la plus populaire du terme, elle est effectivement assez restrictive et très répétitive.
Voilà, si on arrive avec un manuscrit comme Ulysse aujourd'hui, je ne pense pas qu'on...
À l'époque, ça ne s'est pas très bien passé.
Regardez les Bienveillantes, par exemple, qui faisaient près de 800 pages.
Oui, non, mais la taille regardez... n'a rien à faire.
Oui, voilà,
mais c'est toujours la même règle. C'est toujours la même règle. Si quelque chose est défini par une suite de qualité, par exemple, on peut forcément faire des variantes sur l'une ou l'autre, mais pas sur toutes.
C'est l'éditeur ou c'est le public? Vous parlez de la relation de l'auteur à l'éditeur, Sophie Divry. Il y a même un dialogue entre l'auteur et l'éditeur, notamment sur la préface, on y reviendra.
Oui, ce que je voulais dire, c'était que il y a aussi une espèce de mythe comme quoi l'écrivain doit être absolument libre de tout, notamment de ce qu'on vient de parler, d'inconscient, de censure, de remarques des éditeurs, de suivi inconscient d'un certain modèle pour essayer, en effet, que son livre soit imprimé, soit lu, soit reconnu. Et je questionne cette question, justement, de est-ce que la littérature peut être entièrement autonome? Parce que même si on pourrait critiquer certaines injonctions qui nous sont faites de quand même pas trop s'éloigner du récit, et faire des personnages qu'on comprend très vite qui c'est, à mon avis, on n'a rien à gagner à que la littérature soit totalement détachée de tout. Voilà, à mon avis, la littérature est faite dans ce monde, et donc du coup, on est obligé de se débattre avec une espèce d'hétéronomie ou d'impureté. Notamment, ça me fait assez rire quand on dit « oui, on doit être libre de tout ce qui est structure sociale, etc. » alors que les auteurs vivent énormément grâce à l'État, par des bourses, des résidences, et heureusement, parce que sinon on ne vivrait que par le marché, et dans ces cas, tout ce qui ne se vendrait pas serait passé au placard, ça ferait beaucoup, beaucoup.
Merci, on va continuer avec vous et cette discussion autour de l'état de la littérature, les enjeux de la littérature. On va commencer avec vous, Julia Carninon, et cette activité respectable, comme vous l'appelez, que vous décrivez, que vous chantez dans le livre qui porte ce titre. C'est publié aux éditions du Rouergue. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi le medley Godland Slumbers, You're Gonna Carry That Weight, sur l'album Abbey Road des Beatles, évidemment.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. I will sing a lullaby.
You're Gonna Carry That Weight, c'est le medley Godland Slumbers des Beatles sur l'album Abbey Road, et c'est le choix de Julia Carninon qui publie Une activité respectable aux éditions du Rouergue. Pourquoi ce choix musical, Julia Carninon?
Les Beatles, c'est une des grandes passions de ma vie. Je pense que je pourrais passer ma vie à faire que écouter les Beatles en boucle.
Et écrire.
Non, mais même que écouter les Beatles, hein. Non, c'est vraiment assez obsédant. Et comme je viens de déménager, j'ai retrouvé tous mes CD, donc je me suis remise à les écouter. Et celui-là, je sais pas, en fait, je l'ai beaucoup écouté. Et comme ça commence par une berceuse et par des gens qui disent qu'il va falloir porter cette charge très lourde très longtemps, pour moi, ça a beaucoup de sens avec un livre sur l'enfance.
Ouais. Sur l'enfance, ah oui, alors je pensais à l'écriture, moi. You carry that weight. C'est-à-dire cette grâce et en même temps, on parlait tout à l'heure d'obligation dans le sens où quelque chose vous oblige, où vous devez de vous maintenir, de vous tenir.
Je crois que c'est comme si j'avais fait un livre un peu double goût. Genre, pour le lecteur, c'est un livre sur la lecture. Pour moi, c'est un livre sur mon enfance. Clairement. Et mon enfance racontée à travers le prisme de la lecture et de l'écriture.
L'écriture, quand même.
Oui, oui, oui.
Vous m'inquiétiez.
Non. Mais je veux dire, je me suis autorisée à faire œuvre autobiographique que dans la mesure où je suivais certaines limites que je m'étais fixées, qui étaient raconter plus des choses de l'enfance que d'après, des choses qui, en fait, ne sont pas tant que ça la vie privée, et toujours suivre le fil rouge des livres, d'une manière ou d'une autre.
Une activité respectable, donc qui n'est autre que la littérature. C'est un court texte, mais très dense, presque fiévreux, où vous, l'auteur de Buvard, revenez donc sur cette jeunesse. Enfance, mais jeunesse aussi, parce qu'il y a l'adolescence aussi est là, et puis la post-adolescence, le début de l'âge adulte. Vous revenez sur cette époque et sur une famille qui prenait l'amour des livres, une mère qui vous avait offert en cadeau à 5 ans une machine à écrire électrique. Je vous cite, mes deux parents croyaient aux livres, ils croyaient à la solitude, à la vie intérieure, à la patience, à la chance. Ils croyaient au bienfait d'une planche de bois solidement fixée dans une alcôve de ma chambre, sur laquelle posait ma machine à écrire. Au fond, peut-être même qu'ils aimaient le bruit que faisait la machine électrique quand elle mitraillait d'un seul coup la phrase que je venais d'inscrire dans l'écran minuscule au-dessus des touches. Vous revenez aussi sur les circonstances qui vous ont amené à quitter la France pour Budapest, dans un grand appartement vide, où vous écririez vraiment votre premier livre, sur des rencontres, sur des lectures, sur une virée enfantine aussi, avec votre mère dans la librairie mythique parisienne Shakespeare and Company, où vous vouliez dormir, et aussi sur des années de travail physique très intéressant, assez complémentaire finalement du métier d'écrire. Quand je dis métier d'écrire, je reprends l'expression de Pavese, le tout constituant une sorte de cri d'amour au livre, à la lecture autant qu'à l'écriture. Vous parlez beaucoup dans ce texte, Julia Carninon, des conditions physiques qui vous ont conduit à écrire certains de vos textes, dans des maisons lointaines et froides, sur un lit, une canette de Red Bull à la main. Comment on écrit, quoi?
Mais oui,
dans
forcément.
Quelles conditions, voilà.
Mais parce que,
enfin, moi, conditions c'est presque climatiques.
Mais ça a été mon sujet de thèse. Moi, j'ai toujours voulu écrire des livres, et très vite, j'ai commencé à me demander, bon, et comment ils font les autres? Est-ce qu'il faut écrire tous les jours? Est-ce qu'on écrit plutôt le matin, le soir? Est-ce qu'on peut écrire avec quelqu'un dans la maison? Les trucs de Wolf encore. Est-ce qu'on peut écrire si on est une femme mariée ou pas? Est-ce qu'on peut écrire avec des enfants? Combien de temps ça met avant de devenir un bon écrivain? Est-ce qu'on doit faire un plan? Est-ce qu'on doit structurer? Est-ce qu'on doit étudier la littérature ou au contraire ne jamais l'étudier? Est-ce qu'on doit lire des livres tout le temps, les mêmes que les classiques, regarder tout le temps ce qui sort? Bien sûr, je me suis posé la question.
C'est drôle, vous parliez de Wolf, évidemment, alors qu'on a traduit Une chambre à soi, que Marie Dariussec a beaucoup mieux traduit d'ailleurs, en parlant d'un lieu à soi, hein, A Room of One's Own. Vous terminez là-dessus, d'ailleurs, Sophie d'Ivry, hein, c'est la dernière phrase. Alors, il ne s'agit pas de mettre fin à un intolérable suspense, hein, c'est un essai, on l'a dit. Il suffit d'avoir quelques amis et un espace où maintenant se retirer. C'est un clin d'œil à la grande Virginia.
Oui, j'ai bien aimé me faire des clins d'œil un peu à Virginia, parce qu'en tant que théoricienne du roman, Virginia Woolf, c'est sans doute avec Nathalie Sarraute, celle qui m'a le plus aidée à écrire ce livre. Bon, j'ai lu beaucoup d'écrits d'autres écrivains qui réfléchissaient à leur pratique. Et je trouve que moi, chez Sarraute et chez Woolf, on trouve quelque chose de très pratique, justement. C'est très intéressant, toutes les questions que vous posez, c'est des questions auxquelles on se heurte tous les jours. Et donc c'est bien d'avoir des consoeurs, en l'occurrence, auxquelles se référer.
Eh bien, cette émission sert aussi à ça. On va vous écouter, Julia Carninon, lire un extrait d'une activité respectable, donc passage sur l'enfance.
J'écrivais des poèmes minimaux et des lettres aux gens que j'aimais bien. Ma chambre sous les toits, peinte en vert translucide, était remplie de livres et de petits papiers. Les livres, ma mère les y avait entassés l'été précédant mon entrée à l'école primaire, et je me souviens de comment nous nous sommes regardés, un jour que nous nous tenions ensemble face au monument de pages qu'elle avait amassé dans la pièce. À ce moment, il y avait quelque chose dans ses yeux qui suppliait et qui s'en voulait de supplier. Quelque chose qui ne voulait rien imposer à une si petite fille, mais qui redoutait pourtant de ne plus rien avoir à faire avec elle si elle ne passait pas l'épreuve. C'était la première fois que je voyais ma mère être seulement elle, être tellement vulnérable que je l'ai gravée dans ma mémoire, blonde, enceinte de ma sœur, bouleversante, devant le butin qu'elle avait rassemblé pour me dire qui elle était, en réalité. Un monument identique de livres l'avait sauvée, elle, 30 ans auparavant, d'une enfance complètement ratée. Alors elle étalait son secret devant moi. Elle m'expliquait ce qu'elle aimait le plus au monde, dans un mouvement qui était aussi un potlatch, une œuvre d'une richesse démesurée, et à laquelle il s'agirait peut-être de répondre un jour par un don encore plus considérable.
Merci Julia Carninon, c'est un extrait d'une activité respectable, votre nouveau livre aux éditions du Rouergue. Alors on sent tout l'enjeu, hein, toute la gravité du moment avec cette mère qui a rassemblé des livres pour sa fille. C'est aussi un personnage, cette mère, en tout cas dans le livre, je la vis comme un personnage, qui donne à l'écrivain en devenir ses premiers cours presque de creative writing, en lui disant finalement ce qui peut arriver de mieux, c'est un incendie qui brûle tout ce que tu as déjà écrit. Qui vous donne un conseil, dites-vous, que vous avez toujours finalement suivi. On en parlait tout à l'heure un peu quand Sophie Livry parlait des personnages. Ne jamais les décrire, en fait.
Bah oui, en fait. Mais c'est seulement quand on a commencé à me poser des questions que je m'en suis rendu compte. Toutes ces années, j'ai pas travaillé en me voyant comme la fille de ma mère et son élève. Mais c'est juste tout d'un coup, quand les gens me posaient des questions sur Buvard, je disais bah bien sûr que j'ai pas fait ça. Maman avait toujours dit que j'étais là genre, oh, c'est hyper gênant. Mais effectivement, à force de lire des livres, et peut-être aussi parce qu'elle a un esprit très pragmatique, ma mère. Du coup, elle voit des choses que d'autres verraient pas, et vice-versa, sans doute. Elle avait des avis très précis là-dessus. Et de pas décrire ses personnages, en fait, c'est une règle d'or, quasiment. Dès qu'on essaie de décrire trop précisément, le lecteur peut pas s'imaginer ce qu'il veut.
On sait qu'Orhan Pamuk dit le contraire. Orhan Pamuk dit que, par exemple, sur une robe, par exemple, une robe de personnage féminin, il a besoin d'aller acheter la robe, si elle n'est pas dans son environnement immédiat, pour la toucher, pour la sentir, pour la décrire. Sinon, le personnage ne peut pas advenir. Il faut qu'il soit absolument entouré, très précisément caractérisé.
Ouais, il y a plusieurs écoles.
cette mère, elle est décrite, alors pas physiquement, mais avec son mari, votre père, comme un peu des hobos qui partent sur les routes, qui voudraient prendre des livres, des grands lecteurs, hein, vraiment des lecteurs voraces, et qui finalement, parce qu'ils ont peu d'argent et finalement qu'ils ne veulent pas alourdir leur bagage, se privent de ces livres qui sont vraiment leur cartouche existentielle. On sent peu à peu dans ce livre, au fur et à mesure de ces portraits, de ces scènes, toute une mystique de l'écrivain qui se met en place. Donc l'objet livre, hein, absolument sacralisé, on l'a vu à travers ce passage, la machine à écrire, la simple pièce, la solitude, le froid dans certaines maisons, le vide, la souffrance aussi, même souffrance physique, une espèce d'ascèse. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, Julia Carninon, certaines voluptés à vouloir coller à l'image ou d'Épinal ou ultra romantique au sens 19e siècle, de l'écrivain élu et maudit à la fois, en tout cas en marge des autres hommes vivant dans une forme de pureté. Je pense au loup de Vigny, voilà, dans un monde de chiens, ce loup qui a choisi de vivre différemment.
Forcément, en tant qu'écrivain, je suis particulièrement sensible au mythe de l'écrivain. Je pense qu'on se retrouve aussi à écrire des livres parce que les livres nous ont fait fantasmer pour des raisons comme ça. Après, dans les faits, c'est pas pour rien que le mythe des écrivains, c'est un mythe de solitude. C'est quand même une activité qu'on fait seul, plutôt.
Alors, je me tourne vers Sophie Livry, parce qu'il y a un passage précisément dans cet essai, Rouvrir le roman, où vous en appelez, vous, à une forme de collaboration entre les écrivains et presque à une œuvre collective, où justement il faudrait casser cette solitude. Vous parlez de l'importance des écoles, de Pérec par exemple, des textes de Pérec.
Vous citez Roubaud.
Il me semble que les grands moments d'intérêt et d'efficacité d'une tradition poétique sont ceux où il y a une certaine communauté, oui. Des écoles, des groupes travaillent dans le même sens. Oui. Les troubadours, les rhétoriqueurs, oui. Ces groupes-là ont beaucoup de défauts, mais à cause de ce caractère de communauté, ils réussissent mieux, souvent, que celui qui travaille seul. Une communauté
qui fait corps. À l'émulation collective. Là. Monsieur Pérec, ce que vous voulez dire, c'est qu'on sent dans son premier roman, à Pérec, les choses, qu'il a été influencé par le nouveau roman, l'école du regard, on peut dire. Et qu'aujourd'hui, Pérec n'aurait sans doute pas, avec son histoire personnelle, fait le même livre. Parce qu'il aurait été plus influencé, de fait, parce qu'on n'écrit pas... comme ça détachée de tout, par la tendance à l'autofiction, la tendance à la confidence personnelle, qui n'était vraiment, alors pas celle du nouveau roman pour le coup, et celle même en général d'après-guerre.
Alors, il y a une chose très importante dans votre livre, Julia Carninon, Une activité respectable, c'est le besoin, l'articulation travail d'écriture et travail manuel. J'ai eu l'impression de voir une relation entre l'importance du travail physique aussi, de la fierté que cela donnait, pour peut-être vaincre une certaine culpabilité dont parle d'ailleurs Sophie Divry, la fameuse culpabilité de l'écrivain qui serait dans l'idéal, qui serait en dehors du monde.
Après, c'est des questions très personnelles et familiales, mais
là, je parle de votre livre,
Oui, bien sûr. Non, mais effectivement, je me considérerais, j'en suis pas encore là, mais je me considérerais pas un individu complet si j'étais pas capable dans ma vie à la fois de faire des choses concrètes et des choses abstraites. Voilà, je trouve ça très important d'être des deux côtés. Et dans mon cas, avec mon grand-père plâtrier et les villages bretons, et enfin forcément dans cette ambiance-là, vous pensez bien que moi, avec mon doctorat, ça a été l'occasion de faire énormément de blagues.
Je n'avais jamais vécu que dans les livres. Avant de devenir serveuse par accident, j'étais une personne profondément inapte, mais en quelques étés, j'ai déployé mes possibilités, je les ai multipliées, j'ai révélé mon potentiel atavique de servante, j'ai fait l'expérience de la sueur, et ce n'était pas simplement une expérience, c'était un grade. Il y avait du sens dans le travail physique, dans la douleur, dans l'humiliation même, si la contrepartie était la liberté. Je pense à ça, évidemment, parce que Sophie Divry parle de la fameuse culpabilité de l'écrivain, qui a conduit d'ailleurs certains à se penser comme grand messager pour le peuple. Vous épinglez aussi cette tradition, Sophie Divry, de ces écrivains qui pensent qu'ils vont faire la révolution grâce à leur livre et qui exigent d'ailleurs que la littérature soit une forme d'activité politique.
Ce que je dis, c'est que pour s'en sortir de cette culpabilité-là, de se sentir un peu enfermé avec ses virgules dans sa chambre et le soir de ne pas pouvoir dire « ben voilà, moi j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait un mur, j'ai fait du pain », quand on a écrit trois phrases, on se sent un petit peu inutile ou un petit peu vide, un peu abstrait, on flotte un peu. La seule manière de se dire, c'est que pour résoudre ça, dire que la société nous demande des livres, de même qu'elle demande du pain, et le besoin de lire, et le besoin de culture est aussi fondamental que le besoin de pain. Et c'est Dubuffet qui disait « sans pain, on meurt de faim, mais sans culture, on meurt d'ennui ». Donc on fait des livres, il faut bien les faire, nous on va faire ça, autant les faire le mieux que possible, donc payez-nous pour ça. Voilà. Et puis arrêtez de croire qu'on va changer le monde parce qu'on a fait un roman. Là, on fait changer le monde si on fait des manifestations ou des lois, et il faut arrêter des fois de vouloir gagner sur tous les tableaux. Ça, je fais à un moment donné, je vide un petit peu cette question, parce que ça m'a toujours un peu énervée.
Julia Carninon.
Mais en fait, on fait toujours le parallèle entre l'art et l'artisan. L'artiste, l'artisan. Et on a tous ce réflexe-là, et c'est ce que vous venez de faire, et j'aurais fait pareil. On va dire, on n'a pas fait du pain, on n'a pas fait un mur. Mais en fait, enfin, il y a quand même vachement de gens en France qui font ni du pain, ni des murs, ni des livres. Et je sais plus, j'avais pas son nom, mais il y a un écrivain français qui, il y a pas longtemps, dans une interview, a dit « Je suis écrivain parce que c'était un des rares métiers qui permettait de ne jamais donner d'ordre à personne et que personne ne m'en donne. » Et donc, évidemment que c'est un privilège incroyable d'être un écrivain, ne serait-ce que d'avoir le droit de s'exprimer, de publier des livres avec cette liberté-là. Mais en même temps, c'est aussi une position d'une certaine santé, d'une certaine propreté, d'une certaine dignité, même, parce que la dignité, c'est un droit inaliénable. Mais ouais, je suis désolée, c'est vrai.
Une question, Julia Carninon, sur votre propre rapport à vos propres livres. Vers la fin du livre, vous jugez, vous les observez, ces livres-là, vous utilisez une comparaison, enfin c'est un paysage avec différentes constructions, on disait faire du pain, là il s'agit de maisons. J'arpente la littérature comme un champ dans lequel mes pas laissent l'herbe ployer un instant derrière moi, juste le temps de voir le chemin parcouru et l'immensité encore inconnue. C'est ce que je fais, c'est mon activité. Je lis des livres et j'en écris, ils sont simplement différents. Les miens, j'ai parfois l'impression qu'ils sont comme des maisons de bois dans la forêt, des constructions à l'ancienne, planches poncées et clous, méticuleuses, perdues au milieu de grands espaces sauvages, un peu trop résistantes pour être vraiment belles. Mes livres manquent de cette intelligence, cette pureté vert et métal de la prose moderne, cette subtilité langagière. Ils dénoncent mon extrême précaution. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se trouver trop minutieuse et de rêver d'autres livres que les siens ?
Ah non, je rêve pas d'autres livres que les miens, certainement pas. Ce serait un blasphème. Moi, quand j'ai commencé à écrire des livres, je trouvais que j'étais pas assez rock'n'roll, j'étais une provinciale, je voyais pas, j'étais même pas un homme. Enfin, ça sentait le roussi pour devenir un écrivain. Et puis ensuite, je me suis posé plein de questions avec les autres livres que je voyais publiés, ou sans doute des gens plus influencés par la littérature française que je le suis, avec des livres qui effectivement me font l'impression d'immeubles métalliques très beaux, très très industriels et qui ont un chic que ce que je fabrique ne me paraît pas posséder.
Vous parliez de naissance d'un pont tout à l'heure, par exemple.
Oui.
Mais c'est le verre et l'acier et le métal. Le verre,
ouais,
moins.
Je pourrais mettre ça dans cette catégorie, mais je pense surtout à des livres plus épurés que ce que je fais, plus secs, avec quelque chose de pas plus arrogant, mais des gens qui ont l'air beaucoup plus en place et qui font ça avec une...
Vous pensez à qui on aimerait voir, Julia Carignan. Dans la littérature plus ancienne, ces grandes constructions. Vous dites, mais qui est-ce que vous mettez comme ça, la grande construction métallique?
Je serais incapable de vous donner un nom, c'est plus un
Faulkner,
sentiment qu'autre chose.
Faulkner, c'est pas un
grand ça compte pas, les Américains, ça compte pas. Non, ça marche pas.
Pourquoi
du tout.
Pourquoi ça compte pas, les Américains?
C'est trop familier, et ils font des choses en bois, eux aussi, les Américains.
Ben voilà.
Ils font des meilleures choses en bois que moi, mais ils font du bois. Mais non, je parle de la littérature française, quelque chose dans la littérature française de très clean, de très parisien aussi, mais j'adore Paris, c'est pas la question, mais d'élever d'une façon différente. Moi, je vois bien que je fais mes livres. J'ai pas un grand discours, je suis pas très précise, je suis très brouillonne. Et quand je fabrique mes livres, je me vois vraiment en train de donner des petits coups de marteau et du scotch et je fais ça.
Faire du pain, voilà, ou des briques, des maisons. Vous les voyez comment, vos livres, Sophie Divry aussi, ces grandes constructions, des petites cabanes, comment vous voyez ça? C'est intéressant.
Bonne question, oui. Je les vois l'un après l'autre, déjà. Mais non, comme ils sont tous très différents, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose.
Des objets, sont des objets pour vous
Oui, j'essaye de leur donner une unité et un temps et un effet, une espèce de petite bulle esthétique comme ça, mais ils sont assez séparés des uns des autres pour moi.
Des petites bulles, des cabanes, voilà, c'est aussi ça la littérature. On continue avec vous, Sophie Divry. Vous avez décidé de rouvrir le roman, c'est chez Notabilia. Pour quelles raisons rouvrir le roman était-il donc fermé? On en parle, on écoute votre choix musical. C'est Frozen in Time de John Cunningham. C'est dans son dernier album, Fell.
Walked upon the golden sky, it wasn't enough. Caught the wind as it passed by, it wasn't enough.
Quel magnifique choix, Frozen in Time de John Cunningham, c'est dans son dernier album Fell, c'est le choix de Sophie Divry. Rouvrir le roman, c'est chez Notabilia. Je dis quel magnifique choix, pas seulement pour la qualité, mais parce que j'ai l'impression que ce que vous essayez de faire, Sophie Divry, c'est justement de le sortir de ce gel dans le temps, ce roman, de le réchauffer un peu, le rouvrir mais le réchauffer.
Oui, c'est parce que souvent en fait les débats sur le roman sont un peu piégés, parce qu'on se réfère... inconsciemment, un roman étalon qui serait le roman du 19e siècle avec Zola,
Balzac,
oui, Maupassant, qui serait voilà, ce roman narratif de fait avec les personnages, avec une prise sociale également. comme si, depuis un siècle et demi, on devrait toujours considérer nos créations romanesques en regard par rapport à cette espèce d'étalon, voilà, de mesure. Or, en fait, si on regarde un peu plus près, je ne suis pas le plus habilité pour le faire parce que je n'ai pas fait d'études littéraires très poussées, mais ce roman-là, 19e, peut être très bien considéré comme une exception dans l'histoire du roman, une histoire très longue avec des choses beaucoup plus farfelues et beaucoup plus ouvertes que ce dont on a gardé une image, notamment par l'école. Il faut bien dire ce qui est, parce qu'en effet, c'est une forme qu'on transmet très bien, et c'est bien. Mais quand on nous transmet ce roman à l'école, c'est pas forcément pour nous dire qu'on doit réécrire ça pendant des siècles et des siècles. Alors que si on regarde Diderot, Jacques le Fataliste, Laurent Sterne, ou même si on regarde ce qu'on écrivait au Moyen-Âge, c'est pas du tout structuré pareillement. Il y a beaucoup plus de digressions, comme on dirait aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est pour rouvrir le roman, c'est de proposer aussi au créateur de sauter par-dessus les traditions pour aller chercher d'autres traditions plus anciennes, comme Jacques Roubaud l'a fait en s'inspirant du Graal ou de la chanson de Roland pour écrire Le Grand Incendie de Londres, voilà. Ou de s'inspirer aussi de traditions extérieures à la France, ou même de la poésie ou du théâtre pour irriguer le roman. L'hybridité du roman peut être formidable grâce à ça. C'est un peu comme les joueurs, c'était les Islandais, où il y avait un joueur de handball dans l'équipe de football, là, où du coup le gars il faisait des passes tellement puissantes parce qu'il venait du handball que dans son équipe de foot ça faisait quelque chose de formidable et tout le monde était terrorisé chaque fois qu'il faisait une passe. Mais voilà, c'est pareil avec le roman.
L'hybridité.
On peut prendre quelque chose du théâtre, de la poésie ou du roman médiéval pour un petit peu, en effet, dépoussiérer tout ça et aller chercher des idées nouvelles.
Alors, rouvrir le roman. Donc, on vous connaissait, Sophie Divry, comme auteur, je ne sais pas si on peut dire de roman, mais en tout cas de récits, La Côte 400, La Condition pavillonnaire, Quand le diable sortit de la salle de bain. Là, c'est un essai, donc chez Notabilia, rouvrir le roman comme s'il fallait rouvrir une enquête. C'est un essai dans lequel vous vous mettez en tête, en cible presque, de battre en brèche un certain nombre d'idées reçues qui étouffent le roman, comme le style c'est l'homme, le roman c'est mort, le passé simple c'est has-been, et où vous nous faites entrer dans la petite fabrique de l'écrivain de façon aussi très concrète, et en même temps avec son lot de théories. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des théories que vous convoquez, mais des théories qui ont été fabriquées par les écrivains eux-mêmes, comme s'il fallait aussi inciter les écrivains contemporains à ne plus avoir peur de réfléchir à leur travail,
oui,
de théoriser à leur tour.
Clairement, oui. Bon, après, ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Mais disons, c'est vrai que comme la théorie, ça fait peur à beaucoup, notamment par une espèce de mythe sur les excès théoriques du nouveau roman étant visé, Rob Grier, mais surtout Jean Ricardou, qui, c'est vrai, était quand même une espèce de terrorisme théoricien absolument dramatique.
Un théoricien ou un terroriste?
Non, mais c'était l'effet théorique impressionnant de Jean Ricardou. C'était un peu un naufrage, pour le coup. Mais si on reprend les écrits de Rob Grier, par exemple, c'est très intéressant. C'est très clair. Bon, je suis pas d'accord avec tout, mais je discute de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que théoriser, c'est pas très compliqué. C'est pourquoi j'écris tel ponctuation, et pourquoi j'ai tant de mal à écrire les dialogues, et qu'est-ce que je veux atteindre quand j'écris un livre, rien que se poser un petit peu, prendre une ou deux questions, une ou deux influences, ou se rendre compte d'où on vient, qu'est-ce que les romans qu'on a écrits nous font faire. Voilà, pour essayer de sortir de cette image comme quoi la théorie serait quelque chose d'extérieur, alors qu'on passe notre temps, nous, quand on écrit, à faire des choix. D'où viennent ces choix? Ils viennent ou d'influence ou de théorie. Mais en tout cas, c'est pas comme ça, on n'est pas tous original d'un seul coup. Non, c'est pas vrai.
On est constamment en train de faire des choix. C'est ça qui est... Enfin, moi, c'est un des trucs que je trouve les plus excitants quand on écrit un livre. Ouais. C'est on doit décider de la taille que va faire le livre. Est-ce qu'on va le découper en chapitres, en parties, pas le découper? Comment est-ce qu'on va marquer effectivement les ponctuations, les dialogues? Ça, c'est des gros débats. Des fois, le fait de faire ça, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent, a un impact sur le déroulement du récit, parce que les deux sont enchevêtrés. C'est pas comment est-ce que je découpe un truc qui existe. C'est très mêlé, la construction de tout ça. Et effectivement, les choix qu'on fait dans ce domaine-là sont influencés par ce qu'on a lu, par ce qu'on pense qui est un roman, par la façon dont on pense qu'on doit traiter tel sujet.
Donc, de fait, quand on fait des choix, on fait de la théorie, on prend parti pour un côté ou l'autre. Donc, autant le faire le plus consciemment possible, parce que je pense que ça nous fera gagner du temps et que ça nous fera gagner la liberté.
On va vous entendre lire un extrait de Rouvrir le roman, Sophie Divry.
Ainsi, la chape antithéoricienne a-t-elle une véritable force de destruction? À peine la pensée s'élève que l'injonction de ne pas théoriser s'abat sur elle. Beaucoup d'écrivains sont terrorisés à l'idée de devenir de verbeux ratiocineurs s'ils se mettent à réfléchir. Du coup, les écrivains ne s'en occupent guère. Les débats sur des questions esthétiques ne sont plus à l'ordre du jour. On respecte le travail de chacun, ce qui est sans doute démocratiquement vertueux, mais ce manque de polémique agit aussi comme un somnifère intellectuel. Par une confusion regrettable entre la polémique et l'agressivité, on n'ose plus s'interpeller les uns les autres, ni défendre des positions que l'on aura de toute manière du mal à fonder par manque de théorie. La plupart des écrivains ne sont pas des êtres combatifs, sinon ils seraient mieux adaptés au capitalisme et ne seraient pas écrivains. Et pour beaucoup, théoriser représente une gageure, un ennui, un risque. L'éditeur n'est pas emballé, puis ça prend trop de temps, déjà qu'on en manque pour écrire. Par ailleurs, nombre d'universitaires ont des moyens supérieurs aux nôtres pour décortiquer nos textes. Venir leur disputer ce terrain serait insulter les autorités académiques compétentes. Mais quelle idée avons-nous de la théorie pour croire qu'en amorçant une démarche réflexive, un auteur ajoute un élément extérieur, voire impur, à sa littérature?
Merci Sophie Divry, donc un extrait de Rouvrir le roman. Alors il y a un passage très intéressant, vous parlez des préfaces d'écrivains. C'est vrai qu'avant, ce fameux roman au 19e était précédé par une préface où...
De Zola, de
voilà,
Hugo,
voilà,
ce que je disais sur les...
Pierre
sur
et Jean, pour Maupassant, ouais, par exemple, qui...
Bah, la préface à Cromwell, d'Hugo, est très célèbre.
Ah. Vous militez pour ça, finalement. Il faudrait aussi que les écrivains se remettent à, pourquoi pas, préfacer...
Alors là, moi, j'aimerais bien qu'on sorte aucune directive claire et nette de mon bouquin, parce que il y a... Faites ce que vous voulez. Oui. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si on propose une préface à un livre, alors là, c'est tout le monde...
Ça vous dirait, Julia Carignan, de préfacer justement pour expliquer vos vues quoi, sur la littérature, comme ça se faisait avant?
Je pense que c'est intéressant et je pense que la préface doit être ajoutée à la boîte à outils qu'on aurait. Mmh. Si tout d'un coup j'apprends que je peux écrire un roman et que j'aurai le droit de faire une préface, j'écris pas le même roman que si je dispose pas de cet outil-là.
Alors, vous vous en prenez aussi au grand ennemi de l'écrivain, Buffon, et sa fameuse phrase, le style c'est l'homme. C'est même cette phrase de poncif buffonien. Le style, c'est pas la marque de l'écrivain. C'est vrai que j'ai remarqué aussi chez Julia Carignan, le mot style, peut-être qu'il apparaît, qu'il m'a échappé, mais on dit plus écrire, faire des livres. En fait, le mot style semble avoir disparu.
Le style, c'est pour moi ce qui est le plus important dans ma démarche. On a tous acheté des fois des livres pour l'histoire ou pour l'ambiance, et puis on s'est retrouvé à pas pouvoir le finir tellement c'était mal écrit. Donc, c'est le style qui fait un bouquin. Pour moi, il n'y a pas de poisson. Je suis profondément formaliste. C'est pour ça que j'étais super décontenancée en commençant mon essai, parce qu'en fait, j'étais vraiment entre deux positions. Je voulais, moi, profondément chercher des nouvelles formes pour le roman. Mais chercher sans refuser quoi que ce soit de la magie, de la fiction, du roman, de la puissance de la littérature. Et en même temps, comment aimer ce roman sans répéter des formes nouvelles? C'est ça, j'étais vraiment le cul entre deux chaises, quoi. Donc, je voulais arriver à tenir les deux.
Alors, il y a vraiment des morceaux de bravoure, parce que c'est très drôle hein, aussi ce livre, notamment un tableau, des tableaux que vous faites, alors qui opposent, suivant les choix qu'on fait justement de narration, de personnes, de temps aussi, pas assez simple ou imparfait, une colonne avec la tradition, les dominants, les méchants de droite, alors eux c'est la narration omnisciente, et la modernité, les dominés, les gentils de gauche. Focalisation interne. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce tableau, Sophie Divry, et pourquoi vous avez conçu les choses de cette façon. Vous sentez, il y a vraiment des procès d'intention qui sont faits à certaines personnes qui seraient les gens de droite méchants.
Je me laisser un peu de temps de répondre, parce que c'est très intéressant comme question. En fait, ce que j'essaie de mettre en mettant un peu à plat, un peu brutalement, on va dire, cette binarité, c'est justement... que moi, étant été très influencée par le nouveau roman dans le début de mon écriture, parce que je trouvais que cette expérience collective, justement, d'école et de recherche littéraire très stimulante, et c'est encore à ce jour l'école littéraire la plus récente qui a le plus poussé le roman dans ses retranchements. Malheureusement, elle s'est souvent été réduite, notamment par les héritiers ou par l'histoire, à tout ce que j'appelle une voie de la soustraction, c'est-à-dire enlever au roman ce qu'il fait à mon ringard. Alors, la narration linéaire, les personnages décrits, quoi que c'était déjà le temps de Wolf, on a arrêté de décrire les personnages. Et donc, on a accolé à des techniques, qui sont des pures techniques, des espèces d'étiquettes, en disant ça se fait plus, c'est ringard, c'est conventionnel. Sauf qu'à force d'enlever toutes les conventions ou d'enlever toutes les techniques, eh ben, il ne nous reste plus grand-chose.
Donc, enfin là, c'est en termes de voilà. politique, hein, donc, gauche-droite.
Donc voilà. Donc ce que je dis, c'est qu'il y avait après, on reste dans des fois dans un état d'esprit où comme on est énervé par des choses trop traditionnelles dans le roman, c'est des dialogues un peu comme ça à la suite, dit-il, dit-elle, etc. Ou une narration bien linéaire où il y a un personnage qui arrive et qui est-ce qu'il va pouvoir coucher avec machine et hop, la narration se met en route et c'est tellement tranquille que moi ça m'énerve. Et donc tendanciellement, l'esprit humain est ainsi fait qu'il va sortir des lapins politiques de chapeaux qui sont des chapeaux littéraires à la base. C'est pas parce que la narration a été faite et surfaite que c'est forcément ringard, ou on va dire, ou de droite, ou la Et donc, du coup, si on commence à faire des jugements binaires, comme ça, on s'en sort plus.
Voilà, alors le rebondissement est de droite, hein, vous dites. Alors, c'est intéressant, alors, parce que quand on regarde voilà, Balzac ou même Jacques le Fataliste et son maître, il y a des rebondissements amusés.
Il serait
de droite.
Je prends ça
l'immobilité étant de gauche. Ouais. La description physique, c'est de droite. L'anonymat, c'est plutôt de gauche. Et la clarté ou transparence du style contre l'illisibilité qui serait là de gauche et moderne.
Donc, juste pour finir, en effet, c'est ça, c'est que des écoles de recherche littéraire du XXe siècle nous ont laissé cette espèce de tableau comme ça, un peu intuitif, un peu inconscient. Et donc, je le mets à plat pour dire, mais oui, mais on s'en sort pas. Parce que si on commence à dire, ça a été déclaré un peu ringard, donc je vais prendre le truc qui fait cool, et je vais arrêter le passé simple, c'est ringard, donc je vais prendre le présent, le passé composé, c'est plus cool. Si on fait ça pendant des siècles, ben non, ça marchera plus. Parce que malheureusement, les choses se déplacent, et maintenant, on va prendre le présent, le passé composé, et ça va finir par faire ringard. Donc, on s'en sort pas. Donc,
le serpent se mord la queue. Voilà. Julia Carninon, qu'est-ce que vous pensez de cette caractérisation comme ça, en fonction des recherches formelles, finalement, ce label de gauche cool ou de droite ringard, c'est ça? Dominateur.
Oui, c'est comme les écrivains sont plutôt une corporation de gauche, alors c'est plutôt ça qui fait cool.
Je trouve l'idée très drôle de faire comme ça, et ça me parle, mais je crois que je suis beaucoup plus conservatrice que Sophie. mais j'étais d'accord avec le fait d'être formaliste, l'a dit, mais je suis plus conservatrice, et du coup, peut-être que moi, mon ambition, c'est de faire un grand roman classique, plus à la Steinbeck qu'à la Zola, parce que c'est ça ma tradition à moi.
Oui, et Steinbeck étant pas forcément de droite.
Non,
c'est pas une question. Si on pense qu'on peut le ranger, comment on fait à faire des choses comme ça, on s'en sort pas en littérature.
Non, mais en fait, elle ironise, plus, vous ironisez.
Mais c'est ça que Mais en effet, moi, ça m'intéresse que vous disiez ça, parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher. Et en effet, moi, je suis déroutée à chacun de mes livres et je cherche à dérouter le lecteur. Donc en effet, des fois, ça fait des choses qui formellement sont déroutantes. Mais ce que je demande pas, c'est que tout le monde fasse comme ça. On n'est pas obligé d'être tous à chercher, à vouloir chercher, à déplacer, à bousculer. Par contre, ce que je préfère, c'est que les gens savent ce qu'ils font. Comme ça, ça sera plus clair. Et en plus, je pense qu'on travaillera chacun mieux. Il faut de tout en littérature. La littérature, c'est une maison qui accueille, c'est pas une maison qui exclut.
Dernière question pour vous. Moi, je pensais que la question était réglée. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est ce fantôme qui plane sur chacun, un fantôme bien vivant, qui plane sur chacun de vos livres. C'est Virginia Woolf et son fameux lieu à soi pour écrire. Tout à l'heure, Julia Carninon, vous avez dit, voilà, ça sentait le roussi pour devenir écrivain parce que j'étais, je sais pas quoi, jeune femme. Vous avez dit ça. C'est vrai que Woolf est très très présente aussi. C'est vraiment, elle n'est pas réglée cette question d'être un écrivain femme aujourd'hui au XXIe siècle. C'est toujours aussi compliqué qu'à l'époque de Virginia Woolf.
À aucun moment je voudrais dire que ça a été compliqué pour moi ou que je peux clairement dire que parce que j'étais une femme.
Ça sentait le roussi, vous avez dit. Parce que j'étais une femme en l'occurrence.
Mais c'est le livre incroyable que maintenant de plus en plus d'écrivains et de lecteurs connaissent, le livre de Bernard Lahire, La condition littéraire, où simplement il fait ce truc génial de lire les statistiques à l'envers. Et en littérature comme dans toutes les sphères humaines, dès qu'on va vers les cimes, la population féminine se raréfie violemment. Alors forcément, cette année, le concours est allé à une femme, donc du coup, tout d'un coup, on va remettre tout ça en question. Mais je pense que c'est juste très très vrai. Je pense qu'être une femme, de manière générale, c'est pas très pratique.
Donc, Sophie Livry.
C'est vrai que vous disiez tout à l'heure, pourquoi j'ai choisi ce métier, pour pas donner d'ordre, pour pas en recevoir. C'est vrai qu'en tant que femme, c'est un rare des métiers où on peut être vraiment juger sur son travail et pas sur son physique ou sur sa voix. Et donc ça, c'est en tant que tel, on a vraiment l'impression que c'est un des rares domaines où on va être relativement préservé en effet d'un certain machisme naturel, je veux dire pas le vôtre hein, évidemment, mais les hommes dans la littérature seraient sexistes, etc. C'est pas la question, c'est qu'en fait moi en plus j'ai eu comme grande espèce de tutrice Annie Ernaux qui est provinciale, qui est une femme, et moi je me suis jamais sentie en disant je vais pas y arriver parce que je suis une femme. Par contre c'est évident que dans la fabrique de la littérature, les femmes étant plus poussées à s'occuper des enfants et du ménage, rien que trouver du temps va être beaucoup plus difficile pour les femmes, expulser les autres pour préserver sa solitude va être beaucoup plus difficile pour les femmes. Et je pense que d'une certaine mesure, dans la réception, ça peut relativement jouer, même si c'est très difficile à pouvoir percevoir. On aime bien quand même trouver un homme brillant, un homme génie, alors que la figure de génie, par exemple, va être plus difficilement une femme.
Etc. Mais c'est imperceptible.
Mais moi, je trouve que c'est justement ce que je plaide, c'est de dire que la littérature est un espace de liberté, donc prenez-la.
Voilà, vous êtes d'accord?
Oui. Hein,
gardez-la. Ouais. Prenez-la et gardez-la. Merci à toutes les deux pour cette émission et pour vos livres. Surtout rouvrir le roman de Sophie Divry, c'est chez Notabilia, et Une activité respectable de Julia Carninon, c'est au Rouergue. C'est l'heure de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Alexis Weigel de la librairie 47 degrés Nord à Mulhouse, 8B rue du Moulin, donc à Mulhouse. Bonjour Alexis Weigel.
Bonjour Christophe.
Alors vous avez choisi le nouveau livre de Lorraine Groff, Les Furies. C'est publié aux éditions de l'Olivier. C'est traduit de l'anglais, des États-Unis, par Karine Chichereau. C'est le nouveau prodige de la littérature américaine.
Eh oui, et c'est même l'un des livres favoris de Barack Obama. Hein, alors bon, l'ancien président des États-Unis aura sans doute déçu beaucoup de monde lors de ses 8 années passées à la Maison Blanche, mais lui au moins, on pourra dire qu'il avait du goût. Alors évidemment, quand les éditions de l'Olivier font le choix de présenter ses Furies comme le livre préféré de 2015 de Barack Obama, elle déploie un audacieux plan marketing. Mais ce serait vraiment injuste de réduire un texte si explosif aux exaltations littéraires d'un homme, aussi glorieux est-il. Donc qu'est-ce qui a pu tant plaire à Barack Obama dans ce livre ? Peut-être qu'il avait entrevu dans le destin un peu inexorable et funeste des deux personnages qu'on suit pendant 450 pages, la lente déchéance de l'Amérique qu'il allait laisser derrière lui. Parce que Lorraine Groff, dans ce troisième roman, elle opère une destruction massive. Elle opère une destruction du couple, dont on va partager l'histoire. Elle opère une destruction de tout ce qu'on peut s'imaginer de l'évolution de ce couple au fil des pages. Et elle opère aussi une destruction de convenances stylistiques, de structure du récit, de la manière de charpenter son roman. Donc la forme de ce livre, c'est une écriture moderne, généreuse, crue, qui dessine deux parties distinctes. Et bien cette forme va servir le fond. Le fond, c'est-à-dire l'autopsie du couple, celui de Lotto et Mathilde, et le passage à la moulinette de l'institution qu'est le mariage.
C'est ça qui vous a plu?
Oui, c'est ça qui m'a plu, parce que justement l'auteur, elle va interroger les secrets et les mensonges qui planent un peu comme des ombres au-dessus de cette union amoureuse. Elle interroge vraiment l'intimité de ce mariage qui est rongé par le mystère de l'autre. Alors, Lotto et Mathilde, ils s'aiment, sans doute plus que de raison. Lui, il est charismatique, il est célèbre, c'est un dramaturge très célèbre, il est séducteur. Elle, c'est une belle blonde, un peu glaciale, un peu hitchcockienne, un petit pied de reine comme ça. Ils sont tous les deux envahis d'une passion quasi dévorante qui traverse les années, un peu imperturbable. C'est attisé, entretenu par le sexe, par les orgies. Et donc, on va observer 23 années de la vie de ce couple à travers deux regards. D'abord, celui de Lotto, qui va placer ce regard à la hauteur de l'artiste qu'il est, du grand homme, qui va analyser le monde à travers le prisme de la fête, de la légèreté, du désir. Et puis, il y a une deuxième partie, c'est le point de vue de Mathilde, qui est plus brutal, qui est effrayant, qui est destructeur, et elle vient en fait déchirer le voile d'apparence que Lotto tendait sur la vie. Alors la question, ça va être de savoir comment ces deux êtres un peu sublimes, à qui tout réussit, vont laisser cette femme vaillante se consumer et pourquoi les furies vont se libérer au cœur du livre, prédicatrice en fait de la chute à venir.
Voilà, les furies mythologiques évidemment. Donc c'est le titre du nouveau livre de Lorraine Groff. C'est publié aux éditions de l'Olivier. C'est traduit de l'américain, enfin de l'anglais, des États-Unis par Karine Chichereau. Et c'était votre choix, votre conseil de la semaine, Alexis Weigel de la librairie 47 degrés Nord à Mulhouse. Est-ce que vous avez des rendez-vous à nous annoncer dans votre belle librairie?
Alors, dans mardi prochain, on reçoit, donc le 28 février, on reçoit Pierre Adrien, qui a écrit un superbe roman.
Qui est venu dans le temps des écrivains. Ouais. Très beau roman. Les âmes simples.
C'est ça, Les âmes simples, c'est aux Équateurs. Et on attend ça avec impatience.
Très bien. Donc, j'invite les auditeurs à venir vous rejoindre pour écouter Pierre Adrien. Donc, chez vous, Alexis Weigel, librairie 47 degrés Nord à Mulhouse, 8B rue du Moulin, donc à Mulhouse. Merci. À bientôt, Alexis Weigel.
Merci à vous. À bientôt.
C'était le temps des écrivains avec Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Alain Joubert à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Cette heure que nous avons passée à parler de l'art, du roman et de la littérature avec Julia Kerninon et Sophie Divry.